monde, changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin.
What?
Causons énergie.
What?
Une émission pour se réapproprier la question de...
L'énergie.
What?
L'énergie.
Des millions d'hectolitres de pétrole, du pétrole.
What?
Causons énergie.
Qu'est-ce que je vous sers?
Un demi de fioul, s'il vous plaît.
Désolé, on n'en a plus.
What?
Deux éoliennes pour la 8.
Parce que l'énergie est notre affaire à tous, relocalisons-la.
Causons énergie.
Des watts. What? Coopérative citoyenne.
Invite des témoins du coin et d'ailleurs pour décrypter ensemble les enjeux.
Le monde y bouge, et il bouge vite. Il n'est pas tardé à rester sur le carreau, je vous le dis.
Bonjour, vous êtes dans Causons Énergie, émission proposée par DEWAT, coopérative citoyenne d'énergie renouvelable sur la vallée de la Drôme. Cette émission est enregistrée avec Radio Saint-Ferréol, vous pouvez nous écouter sur le canal 94.2, elle est également diffusée sur RDIWA 107.5 et sur Radio Méga 99.2. Aujourd'hui, ce sera la dernière émission de notre cycle sur l'énergie éolienne. Un des impacts connus des éoliennes est celui sur la biodiversité. On pense bien sûr aux pales des éoliennes qui peuvent blesser des oiseaux ou des chauves-souris notamment. Certains ont également en tête les impacts sur le milieu naturel, là où le parc est construit et les éoliennes implantées. C'est évidemment des enjeux qu'il nous fallait aborder dans cette émission. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui Adeline Mathien de France Nature Environnement. Bonjour Adeline.
Bonjour Amélie.
Merci à nous de nous rejoindre. Donc on a de la chance aujourd'hui, Adeline est avec nous en studio, donc l'émission sera d'autant plus naturelle et intéressante. Et donc avant de commencer vraiment l'échange avec Adeline, vous le savez, nous commençons par une rubrique baisse de la consommation. Excusez-moi, qui est introduite par Boris Vian.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre.
Alors, aujourd'hui, dans la partie baisse de la consommation, je vais vous parler d'un atelier, Virage Sobriété. La sobriété, on en parle un peu, beaucoup. Souvent, on imagine vite des restrictions, du moins bien. Justement, une association, Virage Énergie, a mis en place un atelier pour parler sobriété avec le grand public et les élus. Car la sobriété n'est pas forcément une démarche du moins, et surtout, ce n'est pas un concept. Elle peut devenir concrète, notamment à l'échelle locale. D'abord, la définition qui est donnée dans cet atelier Virage Sobriété. Ici, on parle de sobriété comme une démarche qui vise à réduire plusieurs types de consommation. Les consommations d'énergie, de matière, de ressources naturelles et d'émissions de gaz à effet de serre. Comment on vise à réduire ces consommations? Par des changements de comportement dans nos modes de vie et d'organisation collective. Ces changements-là sont volontaires et organisés. Par exemple, utiliser un peu moins sa voiture, avoir une alimentation locale de meilleure qualité. L'atelier permet donc d'explorer les co-bénéfices qui sont importants et qui sont liés à cette sobriété, avec l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau, des sols, l'amélioration de la santé, mais aussi des liens sociaux. On est loin de l'image négative régulièrement associée à cette notion. Et vous me direz, pourquoi on s'y intéresse à la sobriété? Eh bien tout simplement parce que notre consommation énergétique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, et que notre consommation énergétique est encore aujourd'hui majoritairement fossile. Même en France, c'est plus de 60% de nos consommations d'énergie qui vient du pétrole, du gaz et un peu du charbon. Cette consommation excessive a bien entendu un impact important sur le réchauffement climatique, mais pas uniquement. Avec des théories économiques, comme celle de la théorie du donut, on comprend qu'on touche aussi à des questions d'égalité, d'égalité sociale à l'échelle nationale, européenne, voire internationale. La théorie du donut nous parle d'un espace sûr et juste pour l'humanité à construire entre un fondement social, que tout le monde ait accès à l'eau, à l'énergie, au logement, et à la notion de plafond écologique, à ne pas dépasser donc ces fameuses limites planétaires. Donc avec l'atelier Virage Sobriété, on a un outil pour parler sobriété de manière concrète. C'est une bonne idée dans ces débuts de mandats municipaux et intercommunaux, vous ne pensez pas ? En tout cas, c'est ce que Dewatt imaginait quand on a proposé en janvier 2026 trois ateliers, un à Livron, un à Cray et un à Die, aux candidates et candidats aux élections municipales. Les différents participants ont pu explorer des actions concrètes qu'ils pourraient mener aux échelles communales et intercommunales et qui permettent de mettre en œuvre différents types de sobriété. Avec par exemple des mesures comme développer des flottes de véhicules partagés, encourager le développement de l'habitat partagé, désimperméabiliser les espaces publics. Et donc, toutes des exemples que vous pourrez me dire, ça existe déjà, les collectivités territoriales le font déjà. Effectivement. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner cette dynamique. Donc, si vous pensez que sur votre commune, ce type d'atelier pourrait être intéressant à mener et à partager, n'hésitez pas à nous contacter, puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'enclencher ce tournant de la sobriété en le rendant très concret au niveau local.
Causons énergie.
Alors, après ce focus baisse de la consommation, nous accueillons de manière entière Adeline. Donc Adeline, tu travailles à France Nature Environnement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à la fois ton parcours et tes activités actuelles ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Adeline Mathien et je suis chef de projet énergie depuis une quinzaine d'années pour France Nature Environnement. Alors, France Nature Environnement, c'est la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et mon travail consiste à veiller à ce que la transition énergétique, qui est indispensable, se fasse sans sacrifier la biodiversité. Alors, FNE, c'est plus de 6000 associations qui sont présentes sur tout le territoire hexagonal, mais aussi en Outre-mer. Donc, partout autour de vous, vous trouverez une association FNE. Et notre force par rapport à d'autres acteurs, c'est de travailler sur vraiment tous les fronts, que ce soit la biodiversité, la forêt, les risques industriels, la mobilité, l'énergie, santé, environnement. C'est une dizaine de thématiques en tout qui sont traitées au sein de FNE. Et notre mission, c'est d'informer les citoyens et les citoyennes, soutenir les associations locales de notre mouvement et plaider auprès des décideurs, gouvernements, parlementaires, élus locaux, pour que l'environnement ne soit pas juste une variable d'ajustement, mais bien une priorité dans les lois, les réglementations, mais aussi les projets. Et quand le droit ou la démocratie ne sont pas respectés, à ce moment-là, nous agissons en justice. Pour ce qui est de mon parcours, alors moi j'ai étudié l'écologie animale et la gestion de l'environnement à Strasbourg avec une conviction tout au long de mes études, c'était que de défendre l'intérêt général et les biens communs. Et aujourd'hui, je me retrouve pleinement dans le travail mené au sein de FNE et je me concentre sur un enjeu clé, c'est les énergies renouvelables. Alors pas pour les opposer à la nature ou à la biodiversité, mais vraiment pour trouver un équilibre. Comment on déploie aujourd'hui massivement l'éolien ou le solaire, qui sont des énergies renouvelables indispensables dans la lutte contre le réchauffement climatique, sans sacrifier la biodiversité. Et concrètement, je forme et j'outille les associations du mouvement FNE, je sensibilise les citoyens et les citoyennes et je travaille avec les décideurs pour intégrer la protection de la nature dès la conception des lois et des projets. Et pour ce qui est des énergies renouvelables, nous avons d'ailleurs créé plusieurs outils pratiques d'analyse des projets, qui sont des guides. Et pour l'éolien terrestre, nous avons élaboré il y a quelques années l'Éoloscope, qui est un guide gratuit pour analyser les projets éoliens. Il est disponible sur notre site, donc sur fne.asso.fr.
Merci Adeline, du coup tu nous as présenté donc à la fois le mouvement France Nature Environnement et ton parcours, donc on voit bien que tu es à l'intersection des sujets qu'on a envie d'aborder dans cette émission. Donc ma première question peut paraître à la fois très banale, mais elle ouvre du coup vraiment le sujet. C'est au-delà de ce que chacun peut avoir comme idée déjà un peu dans son esprit sur l'impact de l'éolien dans la biodiversité, est-ce que tu peux, toi, me préciser ce que vous travaillez au quotidien, par exemple dans des outils comme l'éoloscope, pour vraiment d'abord juste identifier quels sont les impacts de cette énergie potentiellement sur la biodiversité ?
Concrètement, dans l'éoloscope, on a identifié un certain nombre d'impacts en fonction des différentes phases du projet et des catégories, on va dire, qui étaient considérées. Clairement, on a identifié plusieurs dizaines de critères qui apportent après une appréciation de l'association par rapport à un projet et aux liens. Et ce qui permet à tout un chacun, au final, pas que les associations, mais d'avoir un avis éclairé en fait, sur un projet et aux liens.
Mmh. Et donc, du coup, quels sont les principaux impacts que vous avez identifiés d'un projet éolien sur la biodiversité ? De quoi on parle concrètement ?
Ouais. Alors, le premier constat qu'on peut faire et qu'on dit vraiment toujours, c'est que les énergies renouvelables, et, que ce soit l'éolien, le solaire ou d'autres, ne sont pas neutres pour la biodiversité, en fait. Elles s'ajoutent à d'autres pressions qui sont déjà existantes sur les territoires. Et leurs impacts, après, ils vont varier selon les contextes, hein, le lieu d'implantation, les habitats, les espèces qui sont présentes, mais aussi les précautions et les mesures qui seront mises en place par les porteurs de projets, depuis la construction jusqu'au démantèlement du parc. Et concrètement, pour l'éolien, on a deux grands enjeux qui se posent pour la biodiversité. C'est d'une part la perte d'habitat, et c'est vraiment le premier impact pour la biodiversité, bien devant les autres. Donc quand on installe un parc éolien en forêt ou dans une zone humide, on détruit des milieux naturels qui sont irremplaçables pour des espèces protégées. Donc ça, c'est le premier impact.
Et du coup, pour bien comprendre, ça veut dire que là, quelle que soit l'installation, que ce soit l'éolienne ou que ce soit une station d'épuration ou tout autre type de bâtiment, la perte de cet habitat, en fait, il n'est pas lié spécifiquement au fait que ce soit une éolienne.
Non, pas du tout. En fait, toutes les activités humaines, toutes les infrastructures, elles vont avoir un impact sur l'environnement, sur la biodiversité. Donc, les éoliennes, c'est pas un truc nouveau qu'elles apportent. Mmh. À partir du moment où il y a une artificialisation, une bétonisation, on va avoir une fragmentation des milieux. Les espèces vont pas se déplacer pareil. Elles vont éviter les zones. Et concrètement, ça se traduit par de la perte d'habitat. Elles vont plus pouvoir aller nicher, aller se reproduire, juste chasser, se nourrir. Et après, c'est le déclin des populations.
Ok, merci.
Et le deuxième impact qu'on identifie pour la biodiversité, qui est beaucoup plus connu, c'est la mortalité directe pour les oiseaux et les chauves-souris. Alors, c'est deux groupes d'espèces qui sont les plus touchées par les éoliennes. Et alors typiquement pour les oiseaux, le risque principal, ça va être les collisions avec les pales. Certaines espèces comme les rapaces, sont particulièrement vulnérables aux éoliennes. Ce sont des espèces qui chassent en vol souvent, donc quand elles sont concentrées sur une séquence de chasse, elles vont pas forcément percevoir bien le mouvement des éoliennes. Elles vont s'en approcher, être happées par le mouvement et pouvoir entrer en collision avec les pales. Pour les chauves-souris, on a deux dangers majeurs. Ce risque de collision-là, il existe aussi pour elles. Et ensuite, on a un phénomène un peu moins connu, qui est le barotraumatisme. Quand une pale tourne, elle crée des variations brutales de pression de l'air, en fait, entre l'avant et l'arrière de la pale. Et pour une chauve-souris qui passe à proximité, donc c'est comme un coup de massue invisible qui va provoquer des lésions sur ses organes internes, donc causant des mortalités, et ça, même sans contact avec les pales.
Ok. Et est-ce que, du coup, là, tu nous as partagé deux impacts principaux. Donc, un premier impact qui est lié à toute infrastructure qui va venir artificialiser le sol, donc que ce soit de l'éolien, des énergies ou autre, ou un autre type de bâtiment qui va artificialiser le sol. Donc ça vient perturber, effectivement, donc quand on parle de l'habitat, c'est-à-dire tout simplement... un coin de forêt ou un espace qui était complètement naturel et où tout type d'animaux, que ce soit des animaux, des mammifères, des insectes, etc., pouvaient se déplacer et juste vivre. Donc ça, c'est vraiment le premier impact. Donc d'où l'importance de savoir où on implante, j'imagine, après les éoliennes. Et donc sur deux types d'espèces qui, elles, sont plus concernés directement par le fait que ce soit des éoliennes, ici les infrastructures dont on parle, c'est donc les oiseaux et les chauves-souris. Et pour les oiseaux, est-ce qu'il y a peut-être des précisions à apporter ? Est-ce que moi, comme ça, spontanément, je suis ni une naturaliste, ni une technicienne spécialiste des éoliennes, et je me dis qu'en fonction, par exemple, de la hauteur de l'éolienne, on va pas toucher les mêmes types d'espèces d'oiseaux. Et est-ce que vous avez des vigilances particulières par rapport à certaines espèces d'oiseaux, enfin, quand on parle d'impact sur les oiseaux?
Ouais, alors ça va vraiment dépendre des endroits, Parce qu'on n'a pas les mêmes populations d'oiseaux au nord de la France comme au sud, en zone montagneuse comme dans la plaine. Et enfin voilà, il y a une répartition des espèces qui est pas homogène sur le territoire. On a des espèces qui sont migratrices, donc qui vont être là sur la période estivale pour se reproduire en France et qui seront plus là en hiver. Donc on aura des impacts qui seront saisonniers. Donc ça, oui, il faut aussi en tenir compte. Et alors pour donner quelques chiffres, on a en France, ça peut sembler beaucoup, mais après ça peut aussi être comparé à d'autres activités, mais c'est 4 à 7 oiseaux qui sont touchés par éoliennes et par an, toutes espèces confondues, alors que ce soit des espèces diurnes ou nocturnes, des rapaces, mais aussi des passereaux. Les passereaux, on les identifie peut-être un peu moins parce qu'ils sont plus petits, on les retrouve moins facilement au pied des éoliennes quand on fait des suivis. Les cadavres peuvent se dégrader beaucoup plus vite, être emportés plus vite, et que des rapaces qui sont aussi souvent équipés de balises. Mmh. Et ces espèces-là, elles sont migratrices, elles voyagent aussi souvent de nuit et elles sont aussi très impactées par les éoliennes, par exemple.
Ok. Très bien. Donc, en tout cas, en termes naturalistes, il y a vraiment ce sujet du coup de ce qui se passe dans le ciel, puisque la partie principale de l'éolienne est en hauteur. Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'impact plus largement sur l'environnement? Donc là, on a vraiment parlé d'une partie qui concerne la biodiversité, donc le vivant. Est-ce qu'il y a d'autres impacts spécifiquement ou pas liés aux éoliennes sur l'environnement?
Alors, on a déjà un peu abordé la partie artificialisation. C'est vrai que les éoliennes, c'est un gros bloc béton pour soutenir le mât. Donc ça, c'est une partie qui va être présente dans le sol, même si le béton est plutôt inerte. Après, il va falloir l'enlever une fois que le parc arrive en fin de vie et qu'on va le démanteler. Il y a toute la partie recyclage des éléments de l'éolienne. Donc, c'est quand même principalement de l'acier. Et ça, l'avantage, c'est que ce sont des matériaux qui repartent facilement dans les filières de recyclage qui existent déjà. Et on a, je crois, c'est 90% de l'éolienne qui part en recyclage. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut avoir en tête. Et il y a une obligation de recyclage et de démantèlement du parc. Donc ces enjeux-là environnementaux sont pris en considération déjà dans la réglementation et dans les faits. Après, les éoliennes, on entend souvent parler de l'impact sonore. Alors, c'est vrai, ça fait un peu de bruit, mais plus la distance augmente, plus c'est encore plus faible. Et de toute façon, les éoliennes, on ne peut pas les implanter à moins de 500 mètres des habitations.
Donc ça, c'est une règle juridique qui impose de respecter une distance minimum par rapport aux habitations.
Tout à fait.
C'est ça. Donc là, le bruit pour les mammifères humains, du coup,
c'est
qui
ça.
Sont concernés. Ok. Est-ce que, peut-être pour continuer à creuser un peu ces sujets des impacts de l'éolien sur la biodiversité et plus largement sur l'environnement, est-ce que toi et vous, au sein de FNE, vous avez repéré peut-être des impacts qui sont plus particulièrement présents avant la construction potentielle d'un parc, et puis pendant le fonctionnement du parc en tant que tel? Est-ce que vous différenciez? Est-ce qu'il y a des nuances à apporter et du coup qui, j'imagine, derrière amène des précautions ou des solutions qui sont différentes?
Mmh. Oui, avant et pendant la construction, donc on va être sur des phases d'études, de savoir quel est l'état du site sur lequel on pense pouvoir implanter les éoliennes, et puis sur une phase de chantier. Donc là, typiquement, ça va être au sol que ça se joue. Il va y avoir possiblement des défrichements, du terrassement, des emprises au sol qui sont faites, que ce soit pour les pistes d'accès ou même les plateformes techniques. Et donc voilà, le résultat, ça va être ce dont on a déjà parlé un peu plus en amont. Donc c'est de la destruction, de la fragmentation d'habitats naturels. Puis ça peut aussi être parfois des pollutions qui sont liées au chantier, hein, du carburant ou des déchets qui sont laissés sur place. Et par exemple, toute la phase amont, en fait, avant la avant le chantier, ben, c'est une phase qui est vraiment primordiale. Hein. C'est là où on identifie si le site est vraiment propice à l'implantation du parc. Et enfin, typiquement, un parc éolien qui est mal implanté, qui est dans une forêt, dans une zone humide, où il y a beaucoup de biodiversité, on va détruire des sites, par exemple, de nidification ou autres, pour des espèces protégées. Et donc c'est irréparable.
Ok. Est-ce que c'est là où on parle, par exemple, de la logique de séquence ERC, éviter, réduire et compenser? C'est-à-dire que j'essaye de le reformuler avec mes mots pour être sûr d'avoir bien compris. L'idée, c'est de d'abord regarder ce qui se passe au sol et est-ce que telle parcelle forestière, telle parcelle d'un champ ou d'une zone humide est particulièrement propice à la reproduction de telle ou telle espèce. Et donc, du coup, évidemment, de se dire que ce soit des éoliennes ou n'importe quel autre type de construction, qu'on évite, du coup, de construire quoi que ce soit à ces endroits-là. Donc là, c'est vraiment le principe de savoir, de connaître le territoire, la parcelle, pour pouvoir dire, bon, bah, attention, non, là, c'est vraiment un site de reproduction majeur ou un site de chasse majeur pour telle ou telle espèce.
Oui, tout à fait. La séquence ERC, aujourd'hui, elle est, c'est une séquence qui est réglementaire, on va dire. Donc c'est éviter. Et si on ne peut pas éviter, à ce moment-là, il faut réduire les impacts. Et s'il reste des impacts résiduels, à ce moment-là, il faut prévoir de la compensation. Donc, clairement, la première règle, c'est de bien choisir le site. Ça, c'est quelque chose pour lequel on plaide beaucoup à FNE, c'est de faire une planification écologique, en fait. De planifier le plus en amont possible où on va pouvoir implanter les parcs, là où on ne va pas pouvoir du tout les implanter, et aussi d'identifier les zones où on va devoir faire de la compensation, parce qu'il y aura forcément de la compensation à un moment donné. Et donc là, dans le cas de l'éolien, ben, ça va être éviter les forêts, éviter les zones humides, éviter les zones bocagères, et s'en éloigner de plusieurs centaines de mètres, comme le recommande la directive, enfin c'est pas la directive, mais comme le recommande Eurobat qui établit au niveau européen un certain nombre de recommandations pour notamment pour les chauves-souris. Et c'est après cette phase de planification, ou en tout cas d'identification macro des sites propices, à ce moment-là, on fait une étude de terrain plus resserrée sur les sites qu'on identifie et qui sont potentiels pour l'implantation du parc. Et là, donc, c'est des études de terrain plus précises. Par exemple, des études acoustiques pour repérer les chauves-souris qui sont présentes, des études floristiques pour voir s'il y a des orchidées protégées à éviter, ce genre de choses, voir quelles sont les espèces en fait qui utilisent cette zone, que ce soit pour de la reproduction, de la chasse, la nidification, etc., etc.
Ok. Eh bien, moi j'ai l'impression qu'on commence à avoir un panorama assez construit de ces différents impacts de l'éolien sur la biodiversité et sur l'environnement. Je propose aux auditrices et auditeurs une première pause musicale avec Follow the Sun de Xavier Rude. À tout à l'heure.
Sun. the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Vous êtes toujours dans Causons Énergie et aujourd'hui nous sommes avec Adeline Mathien de France Nature Environnement. Nous parlons de l'éolien et de la biodiversité. Donc nous avons évoqué dans ces premiers échanges l'impact de l'éolien sur la biodiversité, sur l'environnement, et on a commencé à comprendre qu'il y avait certaines obligations juridiques, donc qui sont de fait des lois, des décrets, des ordonnances à respecter, qui doivent nous aider à conjuguer respect de la biodiversité et production d'une électricité éolienne. Est-ce que, Adeline, tu peux, on peut creuser ça ensemble? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect obligation juridique?
Oui, volontiers. Donc, le cadre juridique en France, il est possiblement l'un des plus stricts d'Europe pour protéger la biodiversité. Et on a inscrit encore, il y a moins d'une dizaine d'années, dans la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, l'objectif de zéro perte nette de biodiversité. Et concrètement, ça se traduit par la mise en œuvre sérieuse de la séquence dont on a parlé juste avant, donc la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, éviter les impacts dès la conception, le plus en amont possible, c'est là où on a vraiment toutes les chances d'éviter les impacts, réduire les impacts qui ne peuvent pas être évités, et compenser les impacts résiduels, par exemple, en restaurant un milieu naturel ailleurs. Voilà. Et si cette séquence n'est pas respectée, le projet ne peut pas être autorisé. Ensuite, on a d'autres obligations, les principales obligations, parce que les éoliennes sont des installations classées comme d'autres installations industrielles. Et il y a une étude d'impact environnemental qui est obligatoire avant toute autorisation. Donc dans cette étude d'impact environnemental, le porteur de projet doit évaluer les effets sur la faune, la flore, les habitats, et il doit proposer des mesures pour les limiter. Avec l'étude d'impact environnemental, après, il y a l'enquête publique. Donc là, c'est le moment où les citoyens, les citoyennes, les associations, tous les acteurs du territoire vont pouvoir donner leur avis sur le projet, dire, donner des recommandations, faire des alertes, etc. Donc ça, c'est vraiment deux phases primordiales dans la vie d'un projet, cette étude d'impact, l'enquête publique, et avant d'avoir les autorisations.
Donc ça, c'est avant la construction du parc, quoi, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui soit fait, et toute autorisation administrative pour commencer à envisager des travaux même. Okay. Mmh. Et peut-être, moi je sais que ça ne me paraît pas très évident, une étude d'impact sur la biodiversité, ça veut dire que très concrètement, il y a des spécialistes, donc des naturalistes, à la fois qui connaissent le côté donc animal et le côté végétal, qui vont aller de manière physique sur les parcelles qui ont été identifiées par l'entreprise ou la coopérative qui souhaite implanter des éoliennes et qui va par exemple faire des comptages à des moments un peu clés pour telle ou telle espèce. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu de manière très très concrète qu'est-ce que ça veut dire faire une étude d'impact ?
Ah, c'est tout à fait ça. Alors, pour ce qui est de la biodiversité, des bureaux d'études spécialisés en biodiv, en environnement, vont aller sur le terrain. Ils vont faire des inventaires, voir quelles sont les espèces présentes, les populations sont importantes, où est-ce qu'elles sont situées, si c'est des habitats particuliers qu'il faudrait éviter. Voilà. Et ils vont aussi proposer des mesures pour limiter ces impacts.
Mmh. Ok, très bien. Et ça, c'est des bureaux d'études qui sont indépendants de l'entreprise, en tout cas de la structure qui porterait le parc derrière.
Tout à fait.
Ok. Et donc un moment clé, le moment de l'enquête publique, comme tu nous le disais. Donc là, c'est le moment où tout un chacun peut aller dans sa mairie, écrire dans le cahier du commissaire enquêteur. Donc ça, c'est le avant. Et donc on se dit que le projet coche toutes les cases. Et donc on a l'autorisation pour pouvoir implanter 3, 4, 5 éoliennes pendant la durée de vie du parc. Est-ce qu'il y a également des obligations réglementaires, enfin déjà au moment peut-être du chantier et après pendant la durée de vie du parc?
La séquence ERC elle s'applique aussi au chantier, hein. Il y a un ensemble de mesures qui doivent être mises en œuvre par le porteur de projet et les personnes avec qui ils travaillent sur le site. Et pendant la phase d'exploitation, va y avoir des obligations qui vont surtout dépendre de ce qui a été mis dans l'étude d'impact et de ce que le préfet après aura mis dans son autorisation.
Bien sûr.
Donc ça peut être des mesures de suivi particulières pour certaines espèces, ce genre de choses. Il peut imposer un suivi environnemental en fait pour vérifier l'efficacité des mesures qui ont été ordonnées et pour pouvoir ajuster si nécessaire. Et ça peut être par exemple un parc éolien pour lequel on a identifié qu'il n'y aurait pas beaucoup d'impact sur... ou alors on n'a pas identifié une population d'espèces et on se rend compte qu'en fait elle est quand même impactée, il y a de la mortalité. Le porteur de projet n'a pas demandé une dérogation à la destruction de cette espèce protégée, il va devoir rectifier et le faire a posteriori.
Ok, et ça par exemple, qui va pouvoir constater que finalement il y aura un impact sur telle espèce d'oiseau ou telle espèce de chauve-souris? Est-ce que ça peut être justement une association locale qui de fait est active sur ce territoire-là et lors de balades naturalistes va se dire il y a quelque chose qui a changé, et est-ce que c'est lié au parc éolien?
Oui, tout à fait, ça peut être des associations, ça peut être... n'importe qui, quelque part, ou les services d'Edréal qui viennent faire qui viennent regarder comment ça se passe sur les parcs.
Edréal, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, s'il te plaît?
Ouais, ce sont les directions régionales de l'environnement et qui ont pour mission, d'une part, d'instruire les dossiers pour les parcs éoliens et après aussi de voir comment les parcs sont suivis. Donc de suivre les mesures de suivi.
D'accord, donc elles viennent régulièrement, donc c'est l'État qui, c'est la partie, on va dire, biodiversité, environnement de l'État qui vient vérifier en fait que le parc éolien fonctionne bien selon les mesures qui ont été actées dans les autorisations administratives.
C'est tout à fait ça, ouais.
Ok.
Et donc tout un chacun peut aussi constater des mortalités ou des dysfonctionnements. Et ça peut aussi être des scientifiques qui ont équipé des individus, par exemple des rapaces, des populations de rapaces qui sont suivies par des scientifiques pour toute autre chose. Et puis en fait, ils se rendent compte que la balise n'émet plus et puis elle est au pied d'une éolienne. Donc là, il va falloir demander, enquêter sur le pourquoi du comment. Et s'il n'y a pas eu de dérogation espèce protégée, à ce moment-là, il va falloir la demander.
D'accord, très bien. On a aussi évoqué tout à l'heure dans notre première partie d'échange le fait que le bruit, notamment pour les habitants qui sont autour, peut être un sujet en termes d'impact de l'éolienne. Est-ce qu'il y a des obligations juridiques? Enfin, est-ce que tu peux nous préciser les obligations juridiques concernant les distances minimum d'implantation en fait d'une éolienne?
Oui, alors je pense que la France est un des pays qui prend en compte cet enjeu de manière le plus sérieux. La distance minimale avec les habitations, elle est de 500 mètres en France pour limiter les nuisances sonores. Après, dans les enquêtes qui ont pu être réalisées, dans des sondages, etc., les riverains de parcs éoliens ne se plaignent pas de ces nuisances-là. Ils sont plutôt satisfaits d'avoir un parc éolien près de chez eux. En tout cas, les nuisances sonores ne ressortent pas comme une nuisance majeure. Donc, la distance des 500 mètres, en tout cas, elle permet vraiment de limiter ça.
De limiter, c'est-tu ? Ouais, d'accord, très bien. Est-ce que tu vois d'autres obligations juridiques ? Donc, on a cité le fait qu'il y avait des protocoles de suivi pendant le fonctionnement du parc. Donc, c'est à la charge, du coup, des exploitants d'un parc éolien de vérifier, en fait, que... en fonctionnement, leur parc n'est pas d'incidence plus importante que ce qui a été estimé au départ sur la biodiversité. Est-ce que sur ces suivis-là, je crois que la fréquence aujourd'hui, elle est de tous les 3 ans en termes de régularité. Ouais, est-ce qu'on a une idée de quelle est la fréquence de ces suivis ?
Alors, je ne saurais pas précisément te dire, mais c'est possiblement tous les 3 ans.
Ok.
Après, ça va dépendre en fait de ce qui est trouvé. Et au début, ça peut être bien aussi de le faire tous les ans pour vraiment voir quels sont les impacts, quitte après à augmenter la séquence de suivi. Voilà.
Ok, très bien. Et peut-être aussi de rappeler que, en termes d'obligations juridiques, ça, on l'a pas mal développé dans la première partie de notre échange, mais il y a des réglementations aujourd'hui qui permettent d'identifier des espaces où il y a des enjeux de biodiversité spécifiques. On peut les citer. Je pense que nos auditrices et auditeurs en connaissent, par exemple, les zones Natura 2000, les zones de protection spéciale pour les oiseaux. On parle aussi de ZNIEF pour ce qui va être d'intérêt faunistique et floristique. Et donc ça, c'est des zonages, on va dire, qui permettent d'identifier quels sont les espaces où il y a de la biodiversité vraiment spécifique à protéger. Et que la première obligation juridique, c'est d'éviter d'implanter des sites éoliens sur des zones qui ont été identifiées avec ce type de zonage, Natura 2000, ZNIEF, etc.
Ouais, tout à fait. Alors c'est plus une recommandation qu'une obligation. Aujourd'hui,
d'accord,
c'est pas interdit d'avoir des parcs éoliens en site Natura 2000 ou en zone de protection spéciale, en ZNIEF, etc. Mais clairement, comme c'est des zones quand même qui ont été identifiées et pour lesquelles il y a quand même eu des inventaires, on sait que ce sont des zones avec une biodiversité riche. Clairement. Ça n'a aucun sens d'aller implanter un parc là-dedans. Enfin, ce serait se tirer une balle dans le pied, quoi.
Très bien. Eh bien, je vous propose une seconde pause musicale avec un deuxième morceau choisi par notre invité qui est de Pauline Cruz, T'es beau.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux. Se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. À présent, j'ai beau me dire qu'au fond c'est mieux, même si c'est encore douloureux, je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui forcent mon cœur, qui
tu forces ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent.
C'est la dernière partie de notre émission Causons Énergie, donc cette émission de mai et juin qui accueille Adeline Mathien de France Nature Environnement. On parle d'éolien et de biodiversité. C'est un peu les dernières questions de l'émission, donc j'ai envie de résumer pour nos auditrices et auditeurs les enjeux qu'on a abordés toutes les deux. Par exemple, on sait que localement, sur le territoire de la vallée de la Drôme, si on veut aller vers ce qu'on appelle un mix énergétique, donc une production d'énergie qui est basée sur les énergies renouvelables, on a trois ressources principales à développer dans notre coin. La première, c'est le solaire, donc qui nous permet de faire de l'électricité et aussi un petit peu de chaleur avec l'eau chaude sanitaire. On a le bois pour se chauffer notamment, et puis on a aussi l'éolien. Du coup, c'est la troisième source d'énergie renouvelable qui serait à développer sur la vallée de la Drôme pour aller vers un mix 100% énergie renouvelable. Donc c'est évidemment une énergie qui nous intéresse au sein d'une coopérative citoyenne comme DEWAT. Et donc si on essaye de résumer, si demain on a la chance de trouver un site où il y a peu, voire pas, dans un monde idéal, d'impact sur la biodiversité, j'entends au sol, hein, donc on est hors zone Natura 2000, on essaye d'éviter tant que possible toutes les zones NIEF. Quelles seraient les bonnes pratiques, si on veut résumer, pour que ce parc éolien citoyen soit exemplaire en termes de respect de la biodiversité?
Une fois qu'on a bien identifié les sites avec le moins d'enjeux écologiques, qu'on a impliqué les acteurs locaux, les assos, les scientifiques citoyens, il y a aussi des solutions un peu plus technologiques. Aujourd'hui, on a la moitié des parcs éoliens qui sont équipés de systèmes de bridage, par exemple. Système de bridage, ça veut dire que les éoliennes, elles vont s'arrêter quand un oiseau, une chauve-souris vont s'approcher trop près ou à certains moments de la journée. Et en fait, ils peuvent être programmés. Les éoliennes s'arrêtent pendant une certaine période, c'est pendant les périodes de migration, reproduction. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Pendant les périodes de migration, par exemple, on peut réduire les mortalités de 50 à 90%.
Ah oui, donc ça, c'est un vrai sujet. Donc ça veut dire que le propriétaire du parc éolien choisit d'être particulièrement attentif à son impact sur la biodiversité. Il sait qu'à telle saison, il va y avoir les oies sauvages qui remontent du coup le long de la vallée du Rhône. Et du coup, il choisit d'arrêter sa production éolienne à tel moment. Comme ça, les pales des éoliennes ne tourneront pas. Et donc, a priori, auront beaucoup moins d'impact sur les oies sauvages qui remonteront la vallée du Rhône.
Oui, tout à fait. Il peut aussi, si c'est un site avec des enjeux pour les chauves-souris, à ce moment-là, il va identifier les plages horaires. Alors, c'est souvent le matin, en fonction de certains conditions météo, d'arrêter les éoliennes, parce que c'est un moment où les chauves-souris elles vont sortir, en fait. Elles vont être en activité autour des parcs. Donc ça, c'est des techniques, des solutions qui existent pour réduire la mortalité. Après, il y a des trucs qui sont un peu plus, en innovation. Par exemple, les scientifiques se sont rendus compte que les oiseaux ne voient pas très bien les contrastes. Donc nous, en France, on a la réglementation. L'usage, c'est que les éoliennes soient blanches pour limiter l'impact visuel dans le paysage. Mais pour le coup, les oiseaux les voient très mal. Dans d'autres pays, elles ont des couleurs un peu différentes, plus contrastées, avec une bande rouge sur le mât ou sur les pales. Et en fait, les oiseaux les voient beaucoup mieux. Donc ça peut aussi être une piste pour limiter les impacts sur les oiseaux. Et là, dernièrement, c'est assez récent, il y a une étude scientifique qui montrait que le balisage, donc l'éclairage nocturne des éoliennes, quand il est intermittent, en fait, il attire davantage les chauves-souris. Donc, une solution pour limiter cette attraction, ça peut être de le rendre pas intermittent, justement.
Donc, permanent, c'est ça?
Exactement.
Voilà, parce qu'on est obligé de garder les éoliennes éclairées la nuit, notamment pour des raisons, j'imagine, par rapport à tout ce qui va être aérospatial ou aviation.
Oui,
pas aérospatial, aviation, excusez-moi.
Ouais, il y a des enjeux de sécurité par rapport aux avions, et donc le balisage, il est obligatoire. Actuellement, il est continu. Donc voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. Et une des solutions, ça pourrait être de le passer en intermittent.
D'accord. Donc ce qu'on doit retenir, c'est qu'actuellement, il est continu. Et du coup, il attire particulièrement les chauves-souris. C'est sur les chauves-souris qu'on a constaté un impact.
Ouais, c'est ça.
Et s'il était discontinu, donc on ferait clignoter du coup ce balisage-là.
Alors, c'est pas tant de le faire clignoter, c'est plus de le rendre que les éoliennes s'allument quand il y a un enjeu, qu'il y a un avion qui va passer. À ce moment-là, elles le détectent et elles vont éclairer, elles vont s'éclairer.
D'accord. Ça, c'est techniquement simple à faire. Je sais pas si.
Je sais pas, mais. Okay.
Mais ça peut être une recherche. En tout cas, c'est une piste de recherche.
C'est une piste de recherche, tout à fait. Ouais.
Très bien.
Et après, il y a d'autres solutions. On se rend compte parfois sur un parc, en fait, il y a une seule éolienne qui est problématique, qui est plus mortifère que les autres. À ce moment-là, il faut l'enlever, il faut la déplacer, la mettre ailleurs. Il y a les configurations de parcs, peuvent être des pistes de réflexion. Il y a les dimensions des éoliennes aussi qui sont très importantes par rapport aux impacts. On s'est rendu compte que les éoliennes avec des grands rotors ou avec une faible garde au sol, par exemple, sont beaucoup plus impactants pour les chauves-souris. Donc ça, c'est en termes de conception, dès le départ, c'est des choses qui doivent être réfléchies.
Est-ce que là-dessus, on peut peut-être creuser un tout petit peu, parce que qu'est-ce que ça veut dire une éolienne avec un grand rotor?
Avec
c'est quoi
une
comme
grande,
type d'éolienne?
C'est des éoliennes avec des longues pales.
D'accord.
Donc, qui vont balayer une grosse surface
de ciel, quoi.
De ciel.
Enfin,
Et donc, qui vont aussi avoir des vitesses de rotation en bout de pale plus importantes.
D'accord.
Vont avoir plus d'impact.
Donc ça, c'est des éoliennes qui sont plutôt très grandes, donc j'imagine assez hautes. Enfin, je le lis à la taille de l'éolienne, pas forcément.
Pas forcément. Du coup, on peut avoir des gros rotors et un mât, en fait, une hauteur de mât assez faible. Ça veut dire que la garde au sol,
l'espace entre le sol et la pale.
Et le bout de pale va être assez faible. Et là, du coup, les éoliennes sont aussi plus impactantes pour la faune volante.
D'accord, ok. Donc, il ne s'agit pas de la hauteur, en fait, du mât, il s'agit vraiment de la conception de l'éolienne.
Oui. Après, les éoliennes qui sont très hautes, elles peuvent aussi avoir des impacts sur les espèces de vols qui occupent l'espace du ciel un peu plus haut. Donc, clairement, ça va aussi... Tout ça, ça va dépendre à chaque fois du contexte local, de où sont situées les éoliennes.
D'accord. Et est-ce qu'à l'inverse, si on imagine avoir des éoliennes, ce qu'on appelle les éoliennes domestiques, qui sont beaucoup moins hautes, enfin qui sont en dessous de 30 mètres, je crois, si je ne me trompe pas, est-ce que pareil, ces éoliennes-là, ça dépend aussi de la conception et de, évidemment, là où elles sont implantées, elles peuvent aussi avoir un impact relativement important sur la biodiversité, en tout cas oiseaux et chauves-souris?
Je ne sais pas du tout, honnêtement. Je pense que c'est des éoliennes qui sont assez marginales quand même dans le paysage français.
Oui, très bien.
Je ne saurais pas te dire.
Ça marche. Eh ben, j'arrête de creuser le côté impact dans cette fin d'émission, puisqu'on était plutôt dans l'idée de résumer ces bonnes pratiques. Donc là, tu nous en as cité plusieurs avec donc brider, arrêter le fonctionnement de l'éolienne à des moments stratégiques quand certaines espèces d'oiseaux ou de chauves-souris vont être plutôt en vol, rendre plus contrasté du coup l'éolienne avec peut-être aller vers des éoliennes qui sont moins blanches. On a parlé aussi du type de l'éolienne. Est-ce que ses pales sont très grandes, les rotors sont très grands? Je crois que là, j'ai cité les trois choses que tu nous as développées. Donc là, on est vraiment sur ce que le propriétaire du parc peut avoir comme mainmise. Est-ce qu'il y a peut-être, je vois que le temps tourne, mais est-ce qu'il y a encore une ou deux autres bonnes pratiques, ou en tout cas choses qui pour toi sont assez positives et qui vont dans un meilleur respect de la biodiversité dans le développement de l'éolien et de l'énergie renouvelable, qui est peut-être pas à une échelle locale, que tu aimerais nous partager?
Alors typiquement, donc c'est le choix du site qui est vraiment primordial. Le respect de la réglementation. On se rend compte aussi qu'il arrive que la réglementation soit peu ou pas bien respectée. Et ça, c'est fortement dommage. Les suivis aussi. Les suivis des mesures sont extrêmement importants parce qu'ils permettent d'alimenter en fait, la connaissance, de savoir quels sont... encore plus précisément les impacts. La science a besoin d'avoir les données et de savoir aussi quelles sont les mesures qui sont réellement efficaces. Parce que on peut développer un certain nombre de mesures et puis en fait on se rend compte que tous les projets de part en fait entre guillemets se copient les uns les autres et mettent en place les mêmes mesures de réduction et de suivi, etc. Mais en fait leur efficacité elle est pas démontrée partout, en fait c'est pas universel. Une mesure qui marche sur un parc, elle va pas forcément marcher sur un autre parce que le contexte est différent. Et on a besoin en fait de toute cette connaissance scientifique, et pour avoir cette connaissance-là, il faut avoir des données. Et après, il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc, avoir des suivis et rendre ces données accessibles aux scientifiques et faire des études, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions éclairées sur un certain nombre de choses sans avoir une bonne connaissance de ce qui se passe.
Ok, et du coup, est-ce que aujourd'hui, donc on va, comme d'habitude, nous, sur la page de l'émission, sur le site de Radio Saint-Ferréol, vous partager quelques idées de ressources pour les personnes qui auraient envie de creuser ce sujet-là. On pense bien sûr au site de France Nature Environnement, à d'autres associations naturalistes comme la LPO. Est-ce qu'il y a également peut-être des données que certains jugeraient plus neutres qui seraient en fait... répertorié notamment par l'État?
Oui, tout à fait. Depuis 2023, il y a l'Observatoire des ENR et de la biodiversité qui est porté par l'ADEME et l'Office français de la biodiversité qui a été créé. Et cet observatoire-là, il centralise en fait l'ensemble des connaissances pour aider les porteurs de projets à mieux intégrer les enjeux de biodiversité. Donc c'est vraiment un site ressource qui est très... très utile. Enfin, c'est les données les plus à jour et sur un ensemble de thématiques vraiment très variées pour chacune des énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment un site ressource important. Pour nous, cet observatoire, on souhaitait vraiment qu'il existe. On s'est beaucoup mobilisé pour que la loi le porte, parce qu'il nous semblait vraiment indispensable que les enjeux et les solutions soient objectivés, accessibles à tout un chacun, et puis facilitent clairement les prises de décision. Mmh.
Eh bien, merci beaucoup Adeline. Donc si je résume, en tout cas il y a quelque chose que je retiens, qui est que c'est possible en tout cas de faire de l'énergie éolienne en étant attentif à la biodiversité. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt rassurant, que ça demande qu'on touche à la complexité du vivant, donc que ça demande d'être vraiment en lien avec le territoire sur lequel on souhaite implanter un parc éolien par exemple, et donc donc d'être dans aussi dans ce côté itératif, de pas prendre une solution qui serait fonctionnelle en Pays de la Loire pour l'implanter de fait dans la vallée de la Drôme. Donc d'où l'intérêt aussi, moi j'imagine, de travailler vraiment main dans la main avec des associations locales qui naturalistes et qui connaissent bien les enjeux biodiversité. Merci d'avoir creusé avec nous ces sujets-là. Comme je le disais à l'instant, on va bien sûr vous mettre des ressources sur la page de l'émission, donc sur le site de Radio Saint-Ferréol, notamment le lien vers l'éoloscope, merci beaucoup. Donc qui est vraiment un document très fourni et qui est facile d'accès. En vrai, une fois que vous avez téléchargé l'ensemble des documents, si vous prenez une demi-heure pour vous plonger dedans, vous allez voir que vous avez là un condensé en fait des informations primordiales qui vous intéresseront si vous devez suivre l'implantation d'un parc éolien à côté de chez vous, et que ça vous fera gagner beaucoup de temps par la suite. Donc n'hésitez pas à le regarder en détail. Donc moi, je voulais aussi dire à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Saint-Ferréol que c'est la dernière émission de Causons Énergie avant la pause estivale. Ça fait un peu tôt, mais comme on est aujourd'hui une émission qui est diffusée tous les deux mois, donc c'est la dernière avant l'été. Merci encore Adeline, à toi d'être venue.
Merci à toi.
Voilà, n'hésitez pas donc à consulter la page de l'émission sur le site de Radio Saint-Ferréol. Vous pouvez nous écouter également en podcast sur cette page qui est donc sur le site de Radio Saint-Ferréol. Et pour le prochain rendez-vous, pour ceux et celles qui auraient envie, vous pouvez venir à l'Assemblée Générale de la coopérative des Watts qui se tiendra le samedi 30 mai. Donc on aura notre Assemblée Générale le samedi matin, et l'après-midi il y a des visites de terrain avec notamment la visite d'un parc éolien au sol sur une ancienne décharge municipale, et la visite du réseau de chaleur communal de Oust-sur-Scie. Les inscriptions sont possibles jusqu'à la fin de semaine sur notre site internet. Vous le trouverez dans la partie rubrique actualité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.
C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà.
Causons Énergie.
Une émission pour se réapproprier la question de
l'énergie.
L'énergie.